Il arrive une nouvelle dégringolade en bourse à New York aujourd'hui, notamment le Dow Jones qui a perdu plus de 4 % de sa valeur.
Oui, quand la bourse cabriole le Pepto-Bismol, Paul, évidemment. C'est parce que les obligations 10 ans augmentent en taux. Donc, il y a des gens qui vont peut-être être intéressés à aller acheter, évidemment, des prêts, des placements à long terme avec des taux. C'est une chose. C'est que le marché anticipe ça. Ça ne veut pas dire qu'il y a un déplacement massif des acheteurs vers les obligations. C'est que les propriétaires d'actions se disent que potentiellement le marché va faire ça. Donc, c'est un effet Pygmalion, tout ça. Et ce qui est très drôle, Paul, c'est qu'on passe des mois à paniquer en 2015, 2016, 2017 sur une panoplie de sujets. Dette grecque, Brexit, croissance chinoise qui est au ralenti, le Dieselgate, les prêts étudiants américains, les protos. On nous donne plein de raisons chaque fois. Mais la bourse s'est rendue beaucoup plus une bourse de réaction, de vente massive, de citoyens qui font du courtage eux-mêmes. Donc, tout ça génère des variations boursières. Aujourd'hui, Paul, comme tu dis, S&P 500, 3,75% de perte, qui représente beaucoup le marché américain. Et au Canada, on est un peu inférieur à ça, donc c'est un peu moins grosse perte. Mais soyons logiques, comme on dit d'habitude, même chose, Paul, il va y avoir beaucoup de volatilité. Peut-être qu'on va se réapproprier ça, hein, la capacité de prendre la volatilité.
Oui, ça se pourrait.
On a juste oublié que ça existait
avant. T'as vu d'ailleurs qu'avec... je t'ai envoyé un article là-dessus que je trouvais intéressant sur les applications numériques pour gérer la bourse. Hein, tu pourrais
éviter, les robots.
Hein?
Oui, les robots. D'ailleurs, quand il y a eu la chute là, dans la crise de liquidité, c'était ça. C'est que quand tu atteins un certain seuil ou une certaine baisse, mettons 2 % ou 3 % de baisse, vente automatique en bloc. Donc, c'est un effet qui est comme un effet domino. Plus les gens vendent, plus la bourse baisse. Plus la bourse baisse, plus il y a des ventes automatiques. Plus il y a des ventes automatiques, plus ça fait de la baisse. Donc, tu comprends, c'est un effet. Mais tu sais, prends Dollarama que j'aime bien donner comme exemple encore une fois. Tu sais, le 1er janvier, l'action était à 99 $. Là, on a perdu 4 % aujourd'hui, mais on est encore à 154 $.
Ben, ben oui.
Donc, ça donne une idée comment...
Et Dollarama, tu vas nous le dire, c'est une entreprise qui est là pour rester.
Ben oui, mais Paul, imagine sur un an, 54 % de rendement malgré la baisse d'aujourd'hui. Donc, donc, tu vois un peu comme... Il y a cette tendance de la bourse, mais il y a aussi un peu de réflexion sur nos portefeuilles, mais surtout de la réaction. Si vous êtes du genre à paniquer aujourd'hui, allez voir votre conseiller puis revoyez votre portefeuille à la baisse et faites moins de rendement dans les prochaines années.
Ben oui, qu'est-ce que tu veux? Mais non, mais c'est parce que c'est dans la nature humaine de s'inquiéter puis de dire, ben écoute, où est-ce qu'on s'en va? Puis le marché est très volatile, puis encore aujourd'hui, on l'a vu. Mais à 23 860 points, tu m'aurais dit ça il y a 5 ans, j'aurais dit c'est parfait.
Exactement. Donc tu vois, c'est que tu étais tellement éberlué par les résultats. C'est comme si Shane Corson te marque 50 buts dans une année.
Ouais.
Après ça, quand il te marque 30 buts, tu te dis « Ah, c'est pas... mais c'est bon. » Mais Shane Corson, c'est pas un marqueur de 50 buts, mais c'est la même chose. Tu as fait des bons résultats et là, dans le fond, tu te retrouves avec une baisse de rendement par rapport à ce que tu avais été habitué, mais c'était déjà au-delà de l'espérance. C'est comme Ray Shefford quand il a fait des saisons de 50 buts. Ah. Tu sais, il avait été échangé pour une pièce, il a surpris. S'il a fait une saison de 30 buts, après on aurait été déçus. Mais pourtant, Paul... C'était pas un marqueur naturel de 50 buts à la base. Donc, tu vois un peu le lien avec le hockey.
Tu connais bien ton hockey. Félicitations.
Ouais. Merci, Paul.
Twitter a surpassé les attentes de Wall Street. Il a généré au premier trimestre les premiers profits de son histoire.
Oui, Paul.
Twitter, la première fois qui fait des profits.
Moi, mais je veux pas être rabat-joie, Paul, mais je suis allé voir les états financiers. Et tout est dans le désinvestissement. On a coupé dans la recherche et développement. On a coupé dans le marketing. On favorise donc une rentabilité d'apparence au niveau du bénéfice net, mais on n'atteint pas les utilisateurs comme Snap ou Facebook dans la croissance. Regarde, au niveau des utilisateurs actifs mensuellement, on est en stagnation aux États-Unis chez Twitter et on cherche une façon de garder des utilisateurs. Bien que les revenus aient augmenté, tu as raison, le trimestre, on est rendu à 732 millions de revenus, mais le bénéfice, lui, il est montré... Parce que si on regarde la baisse d'investissement en recherche et développement, on a baissé d'à peu près 69 millions, 68 millions. Et dans les ventes et marketing, même chose, on a baissé de dizaines de millions. Donc, le bénéfice est lié simplement, par rapport au trimestre équivalent l'an passé, à des coupures principalement dans des postes où on investit pour faire plus de revenus. Donc, est-ce qu'on gère mieux ou on fait de l'austérité un peu pour mieux paraître parce qu'on a les mêmes problèmes qu'avant? Mais l'action quand même, Paul, 94 % de hausse sur un an, qui est quand même bien. Et l'action a atteint les 30 $. Donc, oui, on est loin du sommet de 64 $ à peu près. Mais quand même, par rapport aux derniers mois, aux dernières années, c'est quand même bien au total au niveau de la performance boursière. Mais Twitter n'est pas sorti du bois. En plus, ils ont des actifs intangibles qui vont peut-être être dévalués éventuellement parce que les règles comptables disent si tu as des actifs intangibles de plusieurs centaines de millions mais que tu n'es pas capable de récupérer ça en bénéfice, à un moment donné, il va falloir que tu dévalues tes actifs et on a 1,2 milliard d'actifs intangibles appelés Goodwill. Donc, bonne chance Twitter.
Et l'autre problème, c'est que le bassin d'utilisateurs stagne.
Oui, stagnation. Ouais. Tout à fait.
C'est toujours le même qui tweete. Il est à Washington, oui, à la Maison Blanche.
Mais il faudrait que Donald, c'est une publicité gratuite pour Twitter. Hein. Tu veux suivre Donald, si tu vas sur Twitter. Tu sais pas comment il va réagir, puis c'est un fil de presse, donc c'est assez excellent pour ça.
On va parler de Page Jaune. Eux aussi, oui, dans le passé, ont eu pas mal de problèmes. Ils sont dans le rouge.
Oui, mais Page Jaune, évidemment, on est exactement dans le problème dont je te parle. Parce qu'on est en train de dévaluer ce qu'on appelle des write-down ou des write-off d'actifs intangibles. Donc, c'est exactement ce qui arrive. On a fait, pour les trois mois, 500 millions d'évaluations d'actifs. Donc, on avait des actifs au bilan. Puis on dit, écoutez, on récupérera jamais cet argent investi-là et on fera pas d'argent avec ça. On va le mettre à l'état des résultats, donc on va le mettre en charge. Et ça a généré, évidemment, une augmentation des pertes par rapport aux résultats d'exploitation, ce qui fait en sorte qu'on se retrouve avec une perte de 586 millions. Et page jaune, le problème, c'est que, oui, tu avais la page jaune imprimée. Là, Paul, tu veux t'en aller vers le modèle électronique, donc vers une application. Et tu veux convaincre les gens et les commerces de dire que page jaune, l'application page jaune va devenir l'avenir de du commerce ou de la référence ou d'être capable d'offrir des rabais ou peu importe, que ça passe par là. Mais tes utilisateurs passent par des réseaux sociaux. Tu sais, la page jaune, c'était mon réflexe quand j'étais petit.
Ben oui.
D'aller chercher un numéro de téléphone de restaurant ou d'un ami. Tu sais, on cherchait par ordre alphabétique.
Écoute, je veux dire une chose, dans une salle de nouvelles, c'était incontournable. Incontournable! Oui. Moi, quand je commençais à travailler à la radio, t'avais toujours, évidemment, le bottin des pages blanches et le bottin des pages jaunes.
Et ça pendait dans les cabines téléphoniques toujours, Paul.
La publicité disait « faites marcher vos doigts ».
Exact. Il y a beaucoup de ça dans les pages jaunes, te souviens-tu? Et quand tu vas voir pour les résultats par segment, donc pour l'agence, pour l'immobilier, pour le secteur haute et le secteur page jaune, autant au niveau de l'imprimé que le digital, donc le numérique, ben on se rend compte que le bénéfice opérationnel dans les résultats sectoriels, Paul, ben, ils font même pas d'argent avant les autres charges, comme les frais financiers ou ça. Ils sont à perte. Le seul segment de page jaune, tu sais, on a 405 millions de revenus, 587 millions, mais on a quand même 404 millions de dépenses. Mais là-dessus, après ça, t'as toutes les charges et la dévaluation comptable qui font en sorte qu'on fait pas d'argent pour l'instant dans les secteurs. Donc, on se retrouve avec une entreprise qu'on se demande comment elle va rebondir, comment elle va survivre. Parce que là, on a licencié 500 personnes, on a perdu 56% de valeur du titre en bourse depuis un an, et on se demande, OK, c'est quoi l'avenir? Parce que Facebook, Twitter et Snapchat ont l'avantage d'avoir l'effet de réseau. Les gens sont déjà abonnés, sont déjà en réflexe d'aller sur le réseau social. L'application page jaune, il faut que tu convainques les gens de l'utiliser, convainques les gens d'acheter de la publicité là-dessus ou d'acheter des avantages ou des solutions de page jaune, et il faut que tu convainques les clients de l'utiliser. Donc, contrairement à Facebook qui te vend que tu peux être passif devant ton écran et te faire envoyer de la pub, mais page jaune doit convaincre les gens de faire affaire avec son modèle d'affaires. Et on voit que ça génère des revenus, mais ça n'arrive pas à accoter une rentabilité dont on aurait besoin pour compenser la dévaluation des actifs intangibles.
Merci, Pierre-Yves.
Salut,
à demain.